Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre émission dédiée au bien-être, au mieux vivre et à votre santé tous les jours en direct de 11h à 12h30. On vous parle de votre vie quotidienne, comment mieux consommer, mieux gérer votre vie de famille, votre couple ou même votre travail.
Alors aujourd'hui Julia, comme tous les jours, on va commencer en se posant ensemble une question concernante mais assez intime aujourd'hui. Et si celui ou celle que j'aime était toxique ? On apprendra à identifier les signes qui doivent donner l'alerte dans le couple et surtout, que faut-il faire après ? Quitter, rester, réparer ? On fera le point avec la psychanalyste Hélène Vecchiali. Ah, et puis je vous le rappelle, n'hésitez pas à nous poser vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1 ou encore sur Twitter sur le hashtag Europe 1.
Ensuite, à 11h45, il y aura notre séquence tendance avec tous les jours deux de nos chroniqueurs. Et ce matin, Soizic Belin va nous mettre l'eau à la bouche avec la K-food. C'est la nourriture coréenne et c'est très très à la mode et délicieux en plus, paraît-il. Et puis avec Philippine Darblay, notre spécialiste art de vivre, l'ambiance sera tamisée puisqu'elle va nous parler des bougies les plus à la mode en ce moment.
Enfin Julia, dès midi, dans la partie santé bien-être de cette émission, on va faire le point sur l'ennemi juré de certaines femmes, enfin des messieurs aussi, mais ils en ont moins souvent que nous quand même, à savoir la cellulite. La dermatologue Marie Jourdan nous dira quelles sont les dernières techniques efficaces pour s'en débarrasser, si vous le souhaitez. Voilà, vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission quotidienne. Nous sommes avec vous jusqu'à 12h30 pour vous aider à être mieux dans votre corps, dans votre tête et même dans votre cœur ce matin. Avec notre question du jour qui est la suivante, et si celui ou celle que j'aime était toxique ?
Et oui Mélanie, si c'est le cas, mieux vaut s'en rendre compte le plus tôt possible et ne pas souffrir pendant des années dans ce genre de relation. Même si c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire parfois, on va détailler tout cela. Mais d'abord, on va faire une petite introduction sur le sujet. Tout en légèreté, en bonne humeur, mais néanmoins avec beaucoup de sérieux. Et pour cela, on accueille tout de suite Clément Lanoux.
Bonjour Julia, bonjour Mélanie, bonjour à tous. Effectivement, on va parler de relations toxiques. Et quand on parle de relations toxiques, le premier mot qui est venu à la bouche de tout le monde, je me suis promené dans la rue, c'est le fameux pervers narcissique. On va évidemment en parler. Tout d'abord, j'ai sondé un petit peu dans la rue. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique ? A priori, ce serait ça.
Alors pour moi, un pervers narcissique, déjà c'est un homme. Qui te rabaisse à longueur de journée, tu fais jamais rien de bien. Lui, par contre, a toujours raison, c'est tout sur tout, quoi.
Pour moi, un pervers narcissique a pas du tout confiance en lui. Voilà. Par contre, il va faire croire que oui à tout le monde, et en l'occurrence à la personne avec qui il partage sa vie. Il va être hyper possessif, hyper jaloux, prendre le contrôle sur la relation, toujours rabaisser la personne. Enfin, c'est invivable.
Alors ça, c'est ce qu'on croit, on verra tout à l'heure si ça va ou pas. Est-ce que c'est que les hommes ? Est-ce que c'est que dans le couple ? Est-ce que c'est dans le professionnel ? Je ne sais pas, je me suis tourné vers justement...
Je dirais que vous allez dire, est-ce que ça concerne aussi les animaux ?
Mais peut-être qu'il y a des pervers narcissiques chez les animaux, peut-être chez les chiens, vous répondrez peut-être tout à l'heure. Pour les garçons en tout cas, le pervers narcissique, c'est tout autre, il a un côté un peu énervant même.
Alors selon toutes mes potes, c'est le mec vraiment à fuir, qu'il ne faut vraiment pas se mettre en couple avec, etc. Mais pourtant, c'est le premier à pécho, c'est lui qui vole toutes les meufs, donc c'est un peu embêtant.
Voilà, parce qu'il y a souvent...
Ah, il fait des jaloux, apparemment.
Ah, il fait des jaloux, parce que c'est souvent, il est odieux, il se considère mal, faut que je le quitte, mais en attendant...
Mais il chope, il ramasse.
Ah bah, il plaît énormément, on expliquera peut-être pourquoi tout à l'heure. J'ai croisé aussi des personnes pour qui c'est un phénomène de mode et le vrai pervers narcissique n'existe même pas.
Ah, moi, j'ai un vrai coup de gueule contre ces genres de formules. Franchement, je vais être un peu... À contre-courant, je pense, parce que j'ai encore une collègue cette semaine qui me parlait de sa collègue avec qui elle a une relation toxique. Les pervers narcissiques, c'est du même acabit, en fait. C'est-à-dire que ce sont, au fond, des relations d'emprise, mais ces termes, ils sont trop à la mode, parce que ça les pose en tant que victimes. C'est comme si c'était pas de leur faute. Moi, je pense qu'il y a une vraie responsabilité de la part de ceux à qui ça arrive, parce que n'est manipulé, qui peut être manipulable. Voilà.
Alors le seul conseil, que ce soit un pervers narcissique ou pas, c'est de fuir les relations toxiques. Si vous sentez que c'est pas bien, il faut s'en aller.
Là, c'est le psy Clément Lanoux qui parle.
Voilà, aucun diplôme, rien du tout.
Non, mais c'est bon pote.
C'est un conseil. Ah, même moi, j'ai
des
conseils de bon pote.
Vous êtes marié avec quelqu'un qui fait ce métier, alors peut-être vous avez quelques notions infusées comme ça.
Mais non, là, je suis très objectif. Je dis voilà, si ça vous plaît pas, il faut partir. Alors soit vous partez de manière à l'amiable, soit vous allez suivre les conseils de cette jeune femme. Si la personne vous a fait souffrir, si la relation était toxique, voici trois manières pour le quitter de manière pas très classe.
Alors là,
je vois trois techniques. La première, la technique de l'âge, bon, dites du mec, hein. Le petit SMS qui facilite les choses.
Évidemment.
Deuxième méthode, aller acheter des cigarettes et ne jamais revenir.
Ça paraît simple.
Alors, la troisième méthode, ma préférée quand même, c'est qu'il y a une petite option très intéressante dans un contact, c'est bloquer le correspondant. Ah. Voilà, puis après on peut aller se coucher et puis on n'aura plus de nouvelles.
Bon, ça marche quand il n'y a pas d'enfant au milieu, c'est un peu simple. Voilà, hein, mais...
C'est pour une petite relation comme ça toxique qui n'a pas duré forcément
fait,
longtemps.
Quoi, ouais,
et puis bah, cette émission c'est évidemment du bien-être et j'ai voulu aller voir si les enfants étaient bien dans leur petite relation amoureuse en CM1, CM2. Est-ce que ça existe les relations toxiques? J'ai fait un petit point sur les histoires d'amour de CM1, CM2.
Ben non, je trouve que... À notre âge, c'est plutôt des amours d'enfance. Enfin, ça va pas être éternel, on va pas faire des enfants ensemble et tout. Enfin, ça va pas être notre vie, notre couple.
Bah, ça dépend, enfin, de la personne avec qui t'es. Il y a deux personnes dans notre classe qui sont en couple depuis 2 ans, je pense que ça va durer. Là, ils sont, on va dire, en stand-by.
C'est quoi stand-by?
Bah, en pause, mais...
Pourquoi?
La fille avec qui il était en couple, bah, elle a largué parce qu'apparemment, il faisait trop le bébé quand il parlait.
Même si le garçon, il grandit pas un peu dans sa tête, c'est... Enfin, je sais pas, c'est pas parce qu'il rentre pas dans sa tête que personne ne va aller avec lui.
Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Bon, ça dépend de s'ils mûrissent ou s'ils mûrissent pas, parce qu'il y en a, comment dire, qui restent un peu foufou toute leur vie.
Donc voilà,
oh,
le
c'est
bilan.
Là, ils sont pas toxiques, ils sont trop chauds.
Non,
chaud,
c'est mignon, mais si on devait faire un bilan, c'est que finalement, à tout âge, les relations amoureuses, c'est compliqué. Il y aura toujours des questions.
Ça, c'est sûr. Bah, quelle belle conclusion. Merci beaucoup, Clément Lanoux. On vous retrouvera bien sûr demain pour un autre reportage, une autre plongée dans la vraie vie avec vous, qui êtes toujours finalement au plus près des gens, hein, quel que soit le sujet. Merci beaucoup. Et tout de suite, on va accueillir donc notre invité du jour. C'est vous, Hélène Vecchiali. Bonjour.
Bonjour, merci de votre invitation.
Vous êtes psychanalyste et autrice du livre « Maître les pervers, échec et maths » aux éditions Marabout. Alors, on va commencer peut-être par le début d'abord, finalement. Alors, on a utilisé le terme, hein, y compris dans le reportage de Clément. C'est quoi un pervers narcissique? C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un terme à la mode, mais est-ce qu'il y a une définition réelle?
Oui, oui, bien sûr. C'est une personne qui a une problématique mentale grave, une maladie mentale grave et incurable. En quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste à considérer tous les gens autour de lui comme des objets et des objets à détruire psychologiquement à petit feu.
Sympa. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont des vampires émotionnels? Est-ce que...
Oui, ce sont des vampires, mais des vampires qui ont une particularité, c'est qu'ils ne vont pas se contenter d'un sang putride. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est du sang champagnisé, donc des belles personnes, parce que ça n'a aucun intérêt d'éteindre des personnes qui sont dépressives. En revanche, d'éteindre des soleils et des personnes lumineuses, là, c'est plus jouissif.
Bon, wow. Dans un couple, on a tendance à penser, on l'a entendu là aussi dans le reportage juste avant, que c'est l'homme. Hein. L'homme est un pervers narcissique quand ça en est un, bien sûr. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent être des perverses narcissiques?
Alors, les statistiques sont difficile à trouver, mais en gros, il y a 80% d'hommes et 20% de femmes. Pour quelle raison? Ben parce que jusqu'à aujourd'hui, ce sont encore les mères qui accouchent d'enfants et que les mamans, ces mamans-là, sont fascinées par le fait d'avoir produit un petit phallus. Et ces mères qui sont tordues, mais pas forcément perverses elles-mêmes, vont vouloir s'approprier ce petit garçon, vont vouloir le posséder complètement. Et là, elles vont être intrusives, elles vont avoir la main mise sur lui et elles vont avoir un comportement incestuel avec cet enfant. Incestuel, ça veut dire qu'il n'y a pas de passage à l'acte, mais il y a une emprise totale et... À côté de ça, un père qui est dans une complaisance silencieuse par rapport à cette mainmise de la mère sur l'enfant. C'est-à-dire qu'il ne fait pas rempart entre la maman et le petit garçon. D'ailleurs, j'ai le souvenir, dans mon livre, j'ai interviewé beaucoup de gens et il y a un père qui a eu l'audace de me livrer que pendant que sa mère, sa femme, donc martyrisait son fils, eh bien, elle lui foutait la paix.
Ah oui, super. Bon, alors oui, bon, bah non, on n'aime pas ça du tout, mais on comprend très bien le système qui se met en place. Mais la question qui vient, c'est justement en lien, est-ce qu'on est pervers narcissique ou est-ce qu'on le devient? J'ai l'impression qu'on le devient par rapport à un rapport à sa mère,
voilà,
etc.
On le devient par rapport à une enfance avec une mère toxique et un père lâche.
Et est-ce qu'on le reste ou est-ce qu'on peut...
C'est incurable.
Même avec une longue thérapie.
Même avec une longue thérapie parce que c'est devenu quasiment structurel.
Okay.
Bon, bah, c'est incroyable. Mais c'est triste ce que vous dites, excusez-moi. Oui. On va y revenir un peu plus tard, mais oui, effectivement, il faut qu'on parle des victimes maintenant. Hélène Vecchiali, vous restez encore avec nous. On ne fait que commencer avec vous cet éclairage sur ce sujet évidemment sensible des relations amoureuses toxiques. Un sujet complexe, parfois douloureux, mais pour lequel on va vous donner de nombreux conseils, mais aussi des solutions pour vous en sortir si c'est votre cas. Alors à tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine tourné uniquement sur le positif, dans lequel on vous donne le plus d'outils possibles, de conseils pour être bien dans vos baskets et surtout dans votre couple aujourd'hui, avec notre question du jour. Et si celui ou celle que j'aime était toxique? Alors pour y voir plus clair, Hélène Vecchiali, vous êtes avec nous, vous êtes psychanalyste et autrice du livre Mettre les pervers échec et mat aux éditions Marabout. On va rentrer dans le vif du sujet. Quand on vit avec une personne toxique, on ne le voit pas forcément au début, on est aveuglé par l'amour, on peut dire ça?
Oui, et surtout, on a affaire à un compagnon, donc le pervers narcissique en question, qui a une stratégie incroyablement bien rodée.
Quelle est-elle?
Alors, il va commencer par une lune de miel.
Le conte de fées, quoi.
Voilà, mais le conte de fées, au-delà de ce qu'on peut imaginer, parce que contrairement à un homme normal, lui, il n'a pas d'identité, il n'a pas d'émotion, donc il est capable de se donner à fond pour combler sa victime. Dans mon livre, je donne des exemples, et une femme disait « J'avais l'impression avec lui d'être au buffet du Club Med. » C'est-à-dire que j'avais tout ce que je voulais, tout le temps. Et je marchais à 2 mètres au-dessus de l'eau, tellement j'étais comblée.
L'homme idéal, quoi. Voilà. C'est-à-dire donc que la séduction, au début de ce genre de relation, ça fait complètement partie du jeu. Hein,
ça fait partie du jeu, c'est pour ferrer sa proie. C'est la période, on va dire, de décervelage, parce que là, la proie, elle est complètement offerte et dans un état de béatitude absolue. Et à partir de là, ça va être, après ce paradis-là, ça va être l'enfer. Mmh. Et puis, ça va être des allers-retours entre le paradis et l'enfer. Et puis, petit à petit, que l'enfer, avec des méthodes et des techniques très pointues de déstructuration et de mise sous emprise.
Alors, ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait qu'on ne voit pas, nous, potentiellement les victimes, leur toxicité? Parce que c'est, apparemment, c'est intrinsèque et ça va le rester toute la vie. Comment ils font? Ce sont des bons comédiens pour masquer tout ça?
On ne peut pas voir la toxicité dans la mesure où la personne est au paradis. Donc, quand une personne est au paradis, si vous lui dites « tu es avec un pervers », elle ne peut pas l'entendre, puisque elle vit autre chose. Et ensuite, il va y avoir cette déconstruction du paradis, mais il y a toujours l'espoir de le retrouver.
Bien sûr, puisqu'on l'a connu.
Voilà, ouais, et ça. Puis surtout que le pervers, bien sûr, de façon très maligne, va multiplier les promesses et les parjures et les promesses, mais bientôt, bien sûr, on va revenir à ça, donc la personne reste là-dedans.
Vous l'avez déjà un petit peu amorcé tout à l'heure, mais comment les pervers narcissiques ou les êtres toxiques, parce qu'il y a peut-être une différence, d'ailleurs on peut être toxique sans être forcément un pervers narcissique, vous allez nous expliquer la différence, mais ils choisissent leur proie parce qu'elle est, vous dites, solaire, c'est ça en général, on s'attache pas, enfin ils vont pas chercher une proie qui est quelqu'un déjà d'un peu déprimé, un peu sombre.
Ils ont une capacité extraordinaire à scanner les gens. Donc ils vont rentrer dans une salle, il y a 10 femmes, ils vont scanner et hop, c'est celle-là qu'ils vont prendre parce qu'ils ont repéré cette lumière, ils ont repéré que c'était des belles personnes avec des belles valeurs, mais ils ont aussi perçu la petite faille. Mmh. Et cette petite faille, elle est soit structurelle, soit conjoncturelle. C'est un manque de confiance en soi, c'est la capacité à vouloir sauver l'autre, c'est ce maternage qui est inscrit dans leur ADN.
Mais alors, ce qui est curieux, c'est que j'ai l'impression que le pervers narcissique est un addict. Hein. Il est addict à la lumière des autres et à vampiriser cette lumière. Mais est-ce qu'on peut dire que la victime devient également addict à son bourreau?
Oui, mais le plus addict des deux n'est pas celui qu'on croit, c'est le pervers. On comprend bien, si on reprend la métaphore du vampire, que quand il a plus de sang, il meurt. Mmh. Donc le pervers, lui, s'il n'a pas de victime, il ne peut plus exister, parce qu'il se nourrit à ça.
Alors que la victime peut s'en remettre.
Voilà, alors que la victime, heureusement, peut s'en remettre, mais malheureusement, ça peut elle peut aussi ne pas s'en remettre, il y a beaucoup de suicides.
Oui, on pose la situation, mais c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, donner des clés, effectivement, pour s'en sortir et s'en remettre. Alors, vous dites aussi, pour les repérer, notamment ces pervers narcissiques, qu'ils ont en général, un rapport à l'argent qui est très bizarre. Ça veut dire quoi?
Un rapport à l'argent et à la loi qui est particulier. C'est-à-dire que, comme ils sont pervers, ils vont pervertir les liens à l'argent, ils vont pervertir leur relation à la loi. Et ça va fasciner les personnes qui sont autour. Donc pas seulement les victimes, hein, mais tout le monde est fasciné par le fait que ces gens-là s'autorisent des choses que nous, nous ne nous autoriserions jamais.
C'est quoi, arnaquer des assurances, voilà, en faire des trucs assez...
arnaquer les assurances, c'est emprunter de l'argent, jamais le rendre, c'est faire des choses dont on pourrait rêver dans nos cauchemars.
Mais qu'on ne fera jamais.
Mais qu'on ne fera jamais parce que nous, on est quand même des gens normaux et qu'on respecte la loi et qu'on respecte les autres. Et on les voit faire ça et on est fasciné.
On est subjugué. Ouais. Le pervers narcissique, il aime aussi se faire passer pour une victime. C'est même, vous dites, l'une de ses spécialités. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Alors, il se fait passer pour une victime, mais en dernier recours. C'est-à-dire, une fois qu'il a utilisé toutes ses stratégies, toutes ses techniques, et qu'il voit que tout d'un coup, sa proie va lui échapper, alors à ce moment-là, il se met en position de victime et qu'il est le plus malheureux et que c'est terrible. Et comme il a choisi des proies qui sont spontanément gentilles, sauveuses, maternantes,
empathiques,
elles vont se dire, le pauvre, je ne vais pas le laisser tomber, il est malheureux, bon, allez, d'accord, ok, on s'y remet un petit coup.
C'est quoi la différence avec quelqu'un qui est juste toxique dans le couple, la différence entre ça et un pervers narcissique ?
Alors, la personne qui est méchante ou qui est manipulateur ou toxique...
Celle-là, elle se soigne, on est d'accord.
Celle-là, elle se soigne, oui, les bonnes nouvelles, elle se soigne. Mais elle va tirer tous azimuts, c'est-à-dire qu'elle va être méchante sur tout, elle va être toxique tout le temps. Le pervers narcissique, lui, va cibler. C'est-à-dire qu'il va repérer la blessure particulièrement importante que vous avez et il va la rendre hémorragique.
Et comment je sais que mon pervers, donc je suis malheureuse, imaginons, en couple, ce qui n'est pas du tout le cas, mais comment je sais si mon conjoint est pervers ou toxique, juste ?
Eh bien, s'il est pervers, quand il va lancer une flèche, elle vous atteint et vous êtes à terre. S'il est juste toxique, ça va vous effleurer, ça va vous ennuyer. Par exemple, imaginons que pour vous, votre fragilité, c'est « je me trouve pas jolie ». Le toxique ou le méchant, il va dire « t'es nul en cuisine » ou « tu sais pas t'habiller » ou « t'es nul au travail », il va tirer tous azimuts. Le pervers, lui, va dire « mais t'as vu comme t'es moche là ? Mais tu ferais pas un peu de chirurgie esthétique ?»
Voilà. On l'aime pas.
Il est capable d'aller droit à la cible. Il est d'une précision chirurgicale
et d'une
sur
cruauté.
Le point... Votre point de faiblesse absolue.
Est-ce qu'on peut parler un peu aussi du phénomène d'isolement ? Parce que d'après ce que j'ai lu dans votre livre, les victimes se retrouvent assez vite isolées par ce pervers.
Oui, ils se débrouillent pour lui faire croire que la famille et les amis sont des gens méchants. Et petit à petit, il isole parce que ça va lui permettre d'avoir sa proie pour lui tout seul. Et surtout, ça empêche la victime d'avoir de l'aide à l'extérieur.
D'accord. Une thérapie de couple, est-ce que vous disiez incurable, mais si on emmène son pervers narcissique sous le bras chez le psy, ça peut pas marcher. On peut pas. Julielle veut voir le positif.
Moi, j'en ai pas
à la maison, mais j'en ai déjà eu dans ma vie, comme beaucoup de gens que je connais. Ça arrive.
Il y a pas d'espoir.
Il y a pas d'espoir.
Non, parce qu'il va essayer de manipuler le psy et ça marche. Hein.
Ça marche.
Moi, oui, j'ai des amis qui m'ont raconté être allés voir un psy, l'avoir traîné. Il y va volontiers parce qu'il sait qu'il va amuser la galerie et qu'il va.
Parce qu'il est sociable quand même, le pervers narcissique.
Ah oui. Extrêmement sociable, mais lui, il ne peut vivre qu'entouré de gens, et puis surtout de faire le show. C'est-à-dire que c'est un comédien, il envoie des paillettes, etc. Et tout le monde est dans la fascination, l'admiration, mais en se disant, il y a un petit truc qui ne va pas. Quoi. Il voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche.
Hélène Vecchielli, on reste encore un peu ensemble. On met ce matin le doigt avec vous sur ces signaux, ces trucs qui doivent nous faire réaliser qu'on peut être dans une relation amoureuse toxique. Mais heureusement, il y a des solutions pour s'en sortir, se reconstruire et aller de l'avant. La lumière au bout du tunnel amoureux revient dans quelques minutes. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Bien fait pour vous sur Europe 1.
Europe 1, 11h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Très bon choix de musique, c'est Britney Spears qui est effectivement dans cette chanson, dans une relation toxique. Vous écoutez Europe 1 et c'est bien fait pour vous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, c'est votre magazine Bien-être, Mieux Vivre, dans lequel on vous guide tous les jours vers une vie encore plus positive pour vous et surtout dans votre vie amoureuse ce matin, car c'est notre question aujourd'hui. Et si celui ou celle que j'aime était toxique, et notre invitée pour en parler ce matin, c'est la psychanalyste Hélène Vecchielli. Alors Hélène, comment on peut aider les victimes de pervers narcissiques ou de personnes toxiques qui nous écoutent et qui réalisent peut-être même pas
pas encore quelles le sont. Je crois que vous avez des contre-techniques pour sortir de l'emprise, justement. Expliquez-nous ces contre-techniques.
Alors, le plus compliqué, bien évidemment, c'est que la victime puisse prendre conscience qu'elle est dans une situation si difficile. Comme elle est isolée, puisque le pervers a fait en sorte qu'elle ait plus d'amis, plus de famille autour d'elle, malheureusement, le seul point d'alerte, ça va être le corps. Ça va être une visite médicale où la victime va pouvoir dire qu'elle a de l'eczéma, du psoriasis, mal au ventre, qu'elle vomit, qu'elle est vraiment très mal, qu'elle dort mal, qu'elle est en dépression. Et là, c'est au médecin de pouvoir repérer qu'il se passe quelque chose avec le compagnon. Donc ça, c'est vraiment le premier moment où on peut peut-être arriver à atteindre la victime. Après, c'est vrai que ces personnes-là peuvent écouter la radio, peuvent peut-être lire des livres ou peuvent se rendre compte quand même à un moment qu'elles vont très très mal.
Donc si je connais quelqu'un qui vit ça et qui subit ça, l'envoyer voir un médecin parce que tu as l'air fatigué, ça peut déjà être un moyen de l'aider.
Oui, l'envoyer voir un médecin, lui faire lire un livre. Ouais. Moi, je suis...
Sans lui dire c'est toi ce que j'ai vu, mais oui, j'ai lu ça, c'est très intéressant, lis-le.
Mais je suis honorée parce que mon livre continue à très très bien marcher. En même temps, je suis catastrophée parce que ça prouve qu'il y a, beaucoup de monde qui est touché par ça. Mais il y a beaucoup beaucoup de personnes qui m'ont dit « j'ai offert votre livre ». Ouais. Et donc elles le lisent et au bout d'un moment elles sont pas bêtes, hein, elles se rendent compte qu'il y a quelque chose, ça fait écho.
Voilà. Et puis le livre c'est Mettre les pervers échec et mat bien sûr aux éditions Marabout.
Et puis on peut aller voir effectivement des psys qui peuvent ensuite nous aider. Mais alors comment on fait la différence si on est juste avec quelqu'un qui nous rabaisse sans cesse? Alors nous on les appelle les méchants, enfin il est méchant, mon mec il est méchant, mais ça c'est pas des pervers narcissiques. Comment on fait la différence? Est-ce que c'est avec l'exemple que vous nous avez donné tout à l'heure? C'est-à-dire si on est touché et si on est à terre, ça veut dire que c'est plus que de la méchanceté, c'est ça le point?
Oui, parce que là, il y a quelque chose qui est spectaculaire, c'est que le pervers touche à notre identité profonde, c'est-à-dire il touche à notre être. Le méchant, il va toucher à ce qu'on fait, c'est-à-dire tu fais mal ci, tu fais mal ça, ou le manipulateur va vouloir obtenir quelque chose de nous.
Mais ça se soigne ça, juste quelqu'un de méchant?
Oui, toxique, méchant, toxique, manipulateur et tout ça, ça se soigne.
Donc on n'est pas obligé de le quitter, le toxique, ça peut peut-être s'arranger. Là, pour le coup, ça vaut le coup éventuellement d'entamer une thérapie de couple ou de lui dire de consulter.
Voilà. Oui, il y a plein de solutions, hein, mais le pervers, là, malheureusement, la seule et unique action possible, c'est de fuir.
Alors justement, comment on fait? Parce que ça peut prendre très longtemps de s'échapper, parfois plusieurs années.
Oui, ça prend énormément de temps. Les solutions, les déclics sont d'ailleurs différents. Moi, j'ai l'exemple d'une journaliste qui a quitté le siège de son journal avec sa voiture parce qu'elle avait un chef qui était pervers et elle n'en pouvait plus. Elle est partie avec sa voiture et en pleine ligne droite, il y avait des arbres et tout d'un coup, elle a eu envie de jeter la voiture contre un arbre. Donc, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle est rentrée chez elle. Là, elle a vomi et elle a vomi du sang. Et elle s'est dit, plus jamais je retourne. Voilà. Donc, c'était vraiment un déclic énorme. En revanche, une femme raconte que son compagnon, qu'elle connaissait que depuis 8 mois, pervers narcissique, l'a réveillée à 2h du matin en lui disant « t'as pas fait la vaisselle, va faire la vaisselle ». Donc là, c'est un petit peu plus léger et elle est partie. Ouais. Donc, les déclics sont différents, bien sûr, suivant les femmes et suivant les pervers.
Mais j'imagine la situation familiale aussi, parce que s'il y a des enfants au milieu, c'est encore plus compliqué.
C'est très
effectivement.
Difficile.
Vous disiez tout à l'heure que c'est souvent le corps qui lâche en premier chez ces femmes, hein, parce que c'est plus souvent elles qui en sont victimes. Parce que ça veut dire que cette relation amoureuse avec un pervers narcissique, elle attaque même physiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le cœur qui saigne, c'est le corps qui lâche aussi.
Oui, mais parce que le cœur saigne, le corps lâche. Hein, c'est lié. Hein, on sait bien les maladies psychosomatiques, on sait bien qu'elles existent. Donc ces femmes-là, elles sont dans un tel état de détresse interne. Et surtout, elles sont privées de parole. Puisqu'elles sont seules, puisque la seule personne qui est à côté d'elles, c'est le pervers, elles ne vont pas se plaindre auprès du bourreau. Donc, elles vont être prises dans cet engrenage d'être muselées. Et à partir du moment où on ne peut pas mettre de mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X, les mots psychiques, eh bien, c'est le corps qui va parler à leur place.
Il faut, j'imagine, absolument aider à les déculpabiliser une fois qu'elles sont parties, ces victimes. Parce que je pense qu'elles doivent refaire le match, comme on dit, et s'en vouloir terriblement, non?
Oui. Il faut vraiment les déculpabiliser et puis les aider aussi à se dire quelle est la fragilité que j'ai montrée. Mmh. Et puis, est-ce que...
La fragilité, c'est d'avoir été une belle personne en plus. Donc ça, oui, ça peut aider à remonter la pente, justement.
Tout à fait. Ouais. Mais c'est aussi pourquoi, sur 10 personnes, c'est moi que le pervers a choisi et pas les autres. Qu'est-ce qui m'était familier dans le fait d'avoir quelqu'un qui me malmène.
Vous voulez dire que parmi, si on est une de ces 10 victimes, enfin si on était choisi, c'est peut-être que on a quelque chose à aller régler aussi.
Oui, voilà. Mmh. Hein, je pense qu'il y a quelque chose qui a questionné. Et si on a cette réponse-là, on sait que plus jamais on croisera la route d'un pervers, ou qu'on la croisera, mais que lui ne nous repérera plus.
Oui, que nous, on va le repérer et qu'il ne passera plus par nous.
Tout à fait.
On va de l'avant dans cette émission, on aime aller vers le positif, évidemment. Alors, quels sont vos conseils quand on est sorti, quand on a réussi à s'échapper, justement ? Niveau amour, on a vécu le pire, hein, je crois, quand même. Est-ce qu'il faut se laisser, évidemment, on espère évidemment retomber amoureuse, mais vous pensez qu'il faut un temps, un petit temps pour guérir d'abord ? Ou est-ce que si l'amour frappe à notre porte dès le lendemain, ben on y va, on fonce ?
Si l'amour frappe à la porte à n'importe quelle
heure,
il faut
y aller. Ne jamais laisser passer, voilà.
En revanche, comme je disais tout à l'heure, vraiment repérer qu'est-ce qui a fait que je suis rentrée dans cette galère ? Quelle est ma part de responsabilité ? Certainement pas de culpabilité, mais quelle est ma part de responsabilité pour avoir croisé un serial killer psychologique et
c'est comme
y
ça
être
que vous
allé.
Le nommez, carrément.
Oui,
on peut le comparer à un serial killer. C'est un sociopathe,
psychologique.
C'est un psychopathe,
oui,
le gars.
Complet. Et donc, quelle était ma fragilité ? Comment ça se fait que je n'ai pas repéré ça ? Ça veut dire que ça m'était familier, que peut-être dans mon enfance, j'avais un grand-oncle, un cousin...
Parce que si on ne règle pas ça, on risque d'en rencontrer un autre.
Bien évidemment.
Il y a des femmes comme ça qui en ont eu plusieurs.
Il ne sera pas grand, brun, avec des yeux verts, il sera petit, roux, avec des yeux marrons, mais intérieurement, ce sera le même. Ouais. Et donc, il y a des femmes qui tombent de pervers en pervers tant qu'elles n'ont pas compris...
Régler leurs problèmes, en fait, c'est ça.
Oui, parce qu'il y a... Si on accepte cet homme-là dans notre vie, c'est qu'il y a une espèce de familiarité. C'est quelque chose qui ne m'est pas étranger. Ça me parle. Tandis que des femmes qui ont toujours vécu une enfance heureuse avec des gens sympas autour d'elles, etc., elles voient ce type, elles partent en courant. Mmh. Et d'ailleurs, lui, il ne s'approche même pas. Donc, il y a une petite fragilité, mais... qui est dans une personne qui est magnifique.
On s'est échappé grâce à tous vos conseils, on l'espère évidemment, mais s'il y a des enfants au milieu, on ne peut pas couper les ponts entièrement avec cet homme. Alors, ça va, comment on va gérer ça ? Est-ce qu'il peut nuire à mes enfants aussi ?
Bien sûr. Alors, généralement, les enfants, ils s'en fichent, sauf à faire du chantage à la mère. Sauf parce qu'il sait que s'il demande la garde, ça va faire suer la mère.
Il risque pas de monter les enfants contre la mère, le pervers ?
Bien sûr que oui. Donc là, c'est les thérapies familiales, c'est le juge, c'est... Voilà,
si on va vraiment très loin dans le raisonnement, est-ce que dans ces cas-là, il faut se dire qu'il faut écarter le père des enfants ?
Bien sûr.
Ah, carrément.
Oui. Alors le père voit les enfants avec une personne à côté.
Une tierce personne. Parfois, hélas, il y a un volet judiciaire à la fin de cette histoire de couple toxique qu'il faut mener jusqu'au bout, vous dites. Pourquoi c'est si important d'aller jusqu'à ce point final ?
Bien, c'est parce que la loi doit passer, et pour les victimes, on le sait dans tous les autres cas de victimes, et on le voit en ce moment avec cette histoire de Bataclan, cette tragédie terrible, c'est important que les victimes soient reconnues comme victimes, c'est important qu'elles perçoivent qu'à ce moment-là, elles ne sont pas en cause, qu'elles sont victimes. Et qu'il y a quelqu'un qui a voulu les abîmer.
Hélène, on va terminer par une touche positive. Heureusement, beaucoup de personnes, de femmes surtout, qui ont été victimes d'un pervers narcissique s'en sortent et parlent. C'est l'objet de votre dernier livre, Le silence des femmes, paru chez Albin Michel. Sur ces sujets et sur d'autres, la parole se libère enfin, vous dites ?
Oui. Alors mon livre, Le silence des femmes, ne parle pas des victimes de pervers, elle parle des femmes victimes en général et plus particulièrement des femmes victimes de viol par des proches. C'est quand même 86% des victimes de viols qui sont victimes à cause de proches. Et dans mon livre, j'explique que la sidération post-traumatique n'explique pas tout. Il y a énormément d'autres choses. Il y a une culture du viol, il y a cette zone grise du consentement, il y a ce dont on ne parle jamais, ce mythe du désir irrépressible des hommes. Il y a la loi qui fait que ce n'est pas souvent facile pour elles. Voilà, c'est beaucoup d'autres explications, parce que souvent, on parle du silence des femmes qui se taisent pendant 20, 30 ans, 40 ans. On ne comprend pas en se disant, le silence post-traumatique, oui, mais il y a au moins 5 ou 6 autres raisons dont on ne parle jamais. La confusion des langues, par exemple, aussi.
Merci beaucoup, Hélène Vecchiali, de nous avoir accompagnés ce matin. Merci pour tous vos conseils pour sortir donc, de ces relations toxiques qui peuvent parfois durer des années. Mais on l'a compris, il n'est jamais trop tard pour aller de l'avant. À présent, Julia, il est temps de passer, de changer de sujet, de passer à la séquence tendance de ce magazine.
Et oui, Mélanie, dans un instant, Soizic Belin et Philippine Darblay, deux de nos chroniqueuses tendances, vont se joindre à nous dans ce studio. Soizic a entendu votre ventre qui ne cesse de gargouiller, Mélanie, vrai. Moi je l'ai entendu aussi. Elle arrive avec de la cafoud, de la nourriture coréenne. Il paraît que c'est délicieux. Et puis pour digérer tout ça, Philippine Darblay va baisser un peu la lumière avec toutes les tendances bougies pour la maison en cette rentrée. Alors à tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, du lundi au vendredi de 11h à 12h30. C'est votre magazine positif, une émission dans laquelle, avec Julia Vignali, on vous donne tous nos meilleurs conseils, nos bons plans pour une vie toujours plus douce, plus facile. Et donc c'est parti pour notre tour de table tendance, Julia.
Tout à fait, Mélanie. Alors autour de la table aujourd'hui, on a déjà Philippine Darblay. Vous êtes notre experte art de vivre dans Bien fait pour vous. Donc déjà, bonjour. Hein. Et donc ce matin,
ça commence bien.
Avec vous, ça va être ambiance tamisée dans ce studio.
Tout à fait, on va parler de bougies. C'est ça, il y a beaucoup de choses à dire dans les bougies.
Ah, j'adore ça, Philippine. On revient avec vous dans quelques minutes. On va baisser un peu les lumières. Mais tout de suite, on va démarrer avec vous, Soizic Belin. Julia l'a dit tout à l'heure, hein, moi, midi approche à grands pas. Et j'ai déjà un petit peu faim. Et je crois que vous allez nous présenter, enfin, ce que vous allez nous présenter ne va pas arranger mon état.
Non, je vais vous mettre l'eau à la bouche. Je vais vous parler de K-Food. Alors imaginez ce que ça peut donner dans l'assiette.
J'ai du mal hein, pour l'instant.
La K-Food, c'est la contraction de Korean Food et c'est la deuxième édition de ce festival assez particulier qui est là pour vous chatouiller, féliciter votre palais. Alors je me suis permise de vous apporter du vin de banane.
Oui, ça sent bien déjà. D'ailleurs.
Ça sent fort. Hein.
Donc il y a de l'alcool là-dedans ?
Donc l'alcool avec modération, oui, je toujours, précise quand même.
Ça sent bien la banane. Hein.
Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est particulier. C'est
pas... Ouais. J'aime pas trop, c'est... moi. Bon. Un peu dégueu.
C'est très particulier. Et j'ai quelques friandises à base de sésame. Vous pouvez faire passer le sachet. N'hésitez pas à vous servir. Ça va éponger le vin de banane.
C'est ça.
Voilà. Si l'année dernière, les restaurants coréens avaient pour mission de vous faire succomber au charme de leur cuisine, cette année, c'est un peu particulier. C'est autour de restaurants plus traditionnels, des restaurants français, de chambouler leur carte pour mixer la fameuse fusion food. Des plats plus classiques avec des ingrédients de la cuisine coréenne.
Il passe pas, j'ai l'impression, votre vin de banane. Non, vous avez du non, mal à déglutir.
C'est vraiment pas bon. Je sais pas comment le décrire. Bon. C'est très sucré. Dites-moi.
Alors ça croustille.
Ça commence mal. Alors le chef étoilé Eric Frochon du restaurant Le Solstice. Alors il ne propose pas ça à sa carte, hein, je précise, pas de vin de banane. Situé au 45 rue Claude Bernard dans le 5e arrondissement de Paris et l'ambassadeur de l'événement. C'est un amoureux de la Corée. Il est marié avec une Coréenne. Autant vous dire qu'il parle de ce pays avec amour et cela se ressent dans la cuisine qu'il a voulu créer. Il a formé cette année 30 restaurateurs aux produits coréens pour que ces derniers les intègrent à leur façon sur leur carte. Alors concrètement, à quoi peut-on s'attendre à le retrouver dans son assiette ?
Une cuisine gastronomique française, mais extrêmement colorée en fait. La cuisine coréenne est une cuisine qui a beaucoup de goût, qui est très assaisonnée. Et donc on va retrouver toutes ces couleurs dans la cuisine française. À savoir des petites touches d'épices, mais pas trop, du chaud, un peu piquant. Parfois de l'amertume, du salé, puisque la Corée c'est quand même un gros rocher qui s'enfonce dans l'eau. Hein. Y a pas... La présence de la mer est très très importante. Donc on va retrouver toutes ces couleurs à l'intérieur de la cuisine française.
J'ai faim. Voilà, voilà, c'était fait pour. Alors ce mélange cuisine française, cuisine coréenne permet une approche gustative intéressante. Elle aiguise le palais de tous les curieux qui iront franchir la porte de ces restaurants. La cuisine coréenne est finalement assez riche, hein, comme vous avez pu l'entendre. Elle est audacieuse, surprenante, elle ne ressemble en rien à la cuisine japonaise et chinoise.
D'ailleurs, la cuisine coréenne est reconnue exemplaire d'un point de vue nutritionnel de la part de l'OMS.
Tout à fait, c'est une cuisine très saine. C'est une cuisine saine, mais qui a aussi des charmes, comment dire, qui possède une dimension spirituel. Et on écoute Luna Kyung, qui est autrice du blog La Table de Diogène. Je m'excuse par avance si j'ai écorché son nom. Elle nous parle de cette dimension spirituelle qui est très importante.
Vivre en harmonie avec la nature est une idée essentielle dans la culture coréenne. Cette idée de cosmologie est présente aussi dans la cuisine. Un plat parfait doit comporter tout un cosmos dedans. Car le mangeur, l'homme lui-même, est considéré comme un petit cosmos. Ça exprime par de 5 couleurs fondamentales, symbolisant l'eau par noir, terre par jaune, rouge de feu, bleu de bois et blanc de métal. Avoir des ingrédients de ces couleurs garantit des nutriments équilibrés. Le bibimbap aux garnitures multicolorées, c'est un parfait exemple.
Alors voilà, vous voyez, c'est très coloré, c'est très équilibré. Alors pour que vous ayez quelques bases sur la cuisine coréenne, je me suis permise de vous lister quelques ingrédients essentiels que l'on retrouve dans la plupart des plats traditionnels. Le soja, le samjang qui est un condiment très utilisé, un soja très épicé, une pâte de soja très épicée, le gingembre, le fameux kimchi qui est le chou épicé fermenté qui est entré au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2013, le sirop de prune qui sont des prunes fermentées dans du miel et du sucre pendant plusieurs années. Alors, nous allons passer au dessert.
Oui, rapidement. Parce
très
que
rapidement.
Très rapidement. J'ai déjà trop mangé, moi.
Alors, là, imaginez un petit biscuit dans lequel on aurait incrusté des fleurs comestibles pour célébrer l'arrivée du printemps. C'est le Haojin, dans la même veine, en forme de fleurs, mais plus sucré. Finalement, on le rapprocherait plus d'une confiserie. Il y a le Yakgwa, à base de miel, d'huile de sésame et de farine de blé. Le Gokumateok, un gâteau courant à base de patates douces. Mmh. Et pour finir, le Gyeongdan, qui sont des boules de riz gluant.
Mais j'arriverai jamais à me souvenir des noms. Beaucoup, quelque
part, hein. J'ai vraiment hâte encore plus maintenant de tenter l'expérience de la CAF Food, moi Julia, pas vous?
Ah, si. C'est jusqu'au 26 septembre, profitez-en.
Et ben vous êtes mon invitée Mélanie,
oh, c'est gentil,
on va faire une soirée entre copines et je vous invite. Venez avec nous Philippine Darblay et également Soisig Belin, vous êtes également invitée.
Avec plaisir.
D'ailleurs Mélanie, pour notre dîner entre copines, on peut peut-être se mettre sur la table des petits objets, des petites bougies, pourquoi pas.
Hein, Philippine, on passe à vous du coup.
Bah, c'est vrai qu'en cette période de reprise, on a quand même un peu besoin de réconfort. Parce que je ne sais pas pour vous, mais ça démarre quand même très vite pour tout le monde. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de senteurs, de bougies d'intérieur, mais qui ont de l'humour, vous allez voir.
Ah. Bon, alors c'est vrai qu'il y a eu plein de nouvelles marques ces dernières années, je crois.
Oui, tout à fait. Il y a eu plein de nouveautés. C'est vrai qu'avant, on avait soit la version haut de gamme très chère avec des parfums très classiques, hors de prix. Hein, on faisait super attention à ne pas l'allumer toute la journée parce que sinon, ça nous coûtait un bras. Ou la version plutôt bas de gamme, à un prix assez modéré, aux senteurs plutôt vanille ou fraise synthétique. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et dans les nouvelles tendances, il y a une vague de nouvelles marques que je qualifierais plutôt d'originales, voire d'étranges. En tout cas, elles sont décomplexées, ces bougies. Alors, pour vous donner un premier exemple, on démarre en douceur avec un petit clin d'œil de la marque Lucky's, qui propose des bougies parfumées inspirées de cocktails.
Oh, c'est parti.
Et parce qu'on lutte, l'été n'est pas fini, il nous reste quelques jours, malgré les déluges du moment.
Actuel,
voilà. Bon, et du coup, si vous avez envie d'un mojito, vous pouvez tester cette création aux notes de citron vert et de menthe dans un packaging qui ressemble vraiment à un verre de cocktail. Et puis, si vous avez envie d'une tequila sunrise ou d'un cosmopolitan, c'est possible aussi pour 19 euros pièce.
Okay.
Alors sur des notes un peu plus décalées maintenant, le site L'Avant-Gardiste propose des bougies aux senteurs quelque peu inattendues.
Aïe, 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 je crains le pire là.
Alors la marque explique. Excusez-moi, vous êtes du genre à renifler l'odeur du gasoil à la station essence?
Ah oui, en plus. Oui, mais j'aime bien.
Votre sœur adore quand il pleut, juste pour pouvoir sentir l'odeur du gazon mouillé.
Mais aussi,
et ben voilà, vous faites partie toutes les deux de la team des gens qui aiment les odeurs bizarres.
Ah ben voilà.
C'est pour ça qu'on s'aime bien.
C'est ça.
Vous l'aurez compris, il s'agit bien de bougies parfumées au gasoil ou au gazon mouillé. Oh. Mais attention, vous avez même l'option chlore de piscine ou crayon à papier.
C'est dingue ce qu'on invente aujourd'hui.
Et on ne peut pas voir la colle de quand on était petite.
Ah ouais, ça aussi, une bougie à la colle.
Ah ouais, ça serait génial.
On les met à renifler les bougies comme
ça. On les retrouve où, ces bougies?
Et ben, on les retrouve sur leur site.
Elle veut la bougie odeur de gasoil, je pense. Ah ouais.
On les retrouve sur leur site internet ou probablement en magasin, puisque c'est aussi un magasin, à 12,95€ l'unité.
Okay.
Bon, et maintenant, la marque Félice aussi a pour mission de vous protéger.
Ah.
Grâce à leur bougie anti-connasse.
J'en ai une à la maison.
C'est pas vrai?
C'est vrai.
Oui, c'est une copine qui me l'a offerte. Je sais pas
génial.
Comment le prendre.
Alors, est-ce que ça...
Mais c'est quoi ces bougies anti-connasse?
Ce sont des bougies. Alors, en fait, la marque explique tout simplement sur l'étiquette, vous pouvez lire « Bougie idéale pour les neutraliser. Manipulatrice, arrogante, odieuse ou méprisante, la connasse existe dans de multiples versions. Élimine les connasses instantanément et sans laisser de traces. »
S'il y avait la même avec pervers narcissique, au féminin ou masculin, parce qu'on n'oublie pas, il y a des femmes aussi.
Bah ouais.
Oui. C'est la seule bougie de leur gamme ou il y a d'autres quel autre nom du coup?
Heureusement, celle-ci était vraiment coup de gueule. Après, il y en a des un peu plus soft, anti-gueule de bois,
anti-poisse, je crois qu'il y a anti-flemme aussi. Mmh. Elle est un peu plus élevée, elle est à 35 euros. Bon, et pour finir en beauté sur une note un peu plus coquine, hein, je sais que le sujet plaît dans l'émission et puis j'ai une pro à ma droite aujourd'hui. il y a même aujourd'hui des bougies en kit qui vous permettent de mouler... Oui, c'est ce que vous imaginez.
D'accord, ok, on a compris. Pas besoin de
j'imagine plus. Non, voilà. Moi j'ai pas compris.
Voilà. Vous avez comprenez maintenant, Julia, vous entendez?
Toujours pas, il faut l'expliquer avec
vous
des mots.
Vous moulez ce que vous voulez, ok.
Et bah oui, un organe masculin, parce que c'est plus compliqué pour les femmes. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bougies en forme d'organes féminins sur le site Etsy, par exemple. Bon, personnellement, moi je trouve que l'idée de la bougie qui coule et qui défigure l'objet n'est pas super tentante. Mais on peut saluer la créativité, ça c'est vrai. Il faut compter entre 15 et 25 euros pour ça.
J'ai pas compris, on met cette bougie sur l'organe?
Non, alors en l'occurrence, il y a soit la version kit qui vous permet de mouler une bougie dans une certaine forme, plutôt masculine, parce que c'est plus compliqué de notre côté, ou alors vous avez aussi des bougies en forme, déjà en forme d'organes féminins.
Ok, voilà. Moi je vais rester sur la bougie anti-connasse, hein, je crois. Bon, pourquoi ce marché a-t-il autant évolué, pardon, Philippine?
Eh ben, c'est vrai que c'est un marché, plus généralement en fait, le marché du design intérieur et de la déco a énormément bougé, notamment dû à l'augmentation du taux d'urbanisation mondiale, mais le Covid aussi a joué un rôle, puisqu'on se ressent sur son intérieur, quelle que soit la manière hein, d'ailleurs, et du coup on se retrouve avec des tendances dans l'intérieur aussi fortes par exemple que dans le prêt-à-porter. Bon, avec tous ces concepts, on peut contredire notre cher poète Paul Nouget, selon lequel les idées n'ont pas d'odeur. Eh bien si, elles en ont, et pas des moindres.
Ah, le gasoil, la connasse, la bougie et l'odeur de pluie. Merci beaucoup Philippine, merci à vous également Soizic. On vous retrouve toutes les deux très bientôt dans Bienfait pour vous, mais à présent, on va changer de thématique, même si on va rester dans le bien-être, hein, on sera aussi du côté de la santé. N'est-ce pas Julia, c'est quoi le programme tout à l'heure?
Et tout à fait Mélanie, dans quelques minutes, ce sera notre dossier santé. Dès midi, on va s'intéresser à notre ennemi juré, à nous les femmes. Pas le pervers narcissique, la cellulite, c'est l'autre, c'est le deuxième. Pourquoi s'installe telle sur nos cuisses, sur nos fesses, même quand parfois on fait attention à sa ligne. Mais surtout, le plus important, comment on s'en débarrasse. La dermatologue Marie Jourdan va tout nous expliquer. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali sur Europe 1. Europe 1,
11h, 12h30.
Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre nouveau magazine dédié au bien-être et au mieux vivre, c'est jusqu'à 12h30 et dans la demi-heure qui va suivre, comme tous les jours avec Mélanie Gomez, on va surtout prendre soin de votre santé, votre bien-être.
C'est ça Julia, dès midi comme chaque jour, un invité, ou plutôt une invitée ce jeudi, une experte sera à nos côtés. Aujourd'hui c'est le docteur Marie Jourdan, elle est dermatologue et va nous aider à nous débarrasser de cette petite couche de gras, de capiton, la cellulite qui peut enquiquiner même les plus minces.
Et puis à 12h20, ce sera notre rendez-vous habituel à la fin de cette émission, la chronique vite fait, très bien fait. Et aujourd'hui, ce sera avec vous, Cécile Coumeau. Je rappelle que vous êtes celle qui, chaque semaine, apportait du bien-être aux jeunes de plus de 50 ans qui nous écoutent. Et donc là, en bonne quinca que vous êtes également, vous avez testé pour eux l'extrême de l'extrême. De quoi s'agit-il?
J'ai testé pour vous 100 km de marche à pied, sans s'arrêter ou presque. En revenant, je marchais comme une petite vieille, mais j'avais au moins 20 ans de moins dans la tête.
Génial.
Super, merci beaucoup Cécile. On vous retrouve dans quelques minutes pour cette expérience incroyable, ce reportage presque immersif dans l'effort extrême qui est donc possible tout à fait, même après 50 ans. Mais pour le moment, c'est notre dossier santé du jour.
Europe 1.
Et bien voilà, nous sommes dans la dernière demi-heure de notre émission consacrée à notre santé et notre bien-être. Et pour cela, on accueille tout de suite notre invité. C'est vous, docteur Marie Jourdan. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes dermatologue à Paris et membre de la Société française de dermatologie. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la cellulite et évidemment surtout de comment s'en débarrasser. Mais avant cela, on va tenter de comprendre de quoi on parle. La cellulite, c'est quoi physiologiquement ?
Alors physiologiquement déjà c'est quelque chose de naturel puisque ça concerne plus de 90% des femmes puisque c'est surtout sous l'égide des hormones et notamment des œstrogènes. Donc pourquoi la plupart d'entre nous ont de la cellulite ? C'est parce que c'est une répartition graisseuse sous-cutanée qui est perceptible donc à l'œil et son organisation en grappes de raisin fait qu'on perçoit des capitons, des creux, des bosses à la surface.
C'est vraiment un truc très féminin, que féminin ou est-ce qu'il y a des hommes qui en ont quand même aussi ?
C'est une exception chez les hommes, c'est 2%. 10% des hommes dans les statistiques. Et ça, ça les, oui, c'est vraiment exclusivement, quasiment féminin.
Oui, alors certaines y échappent comme Mélanie Gomez. certaines n'y échappent pas comme moi.
Personne n'en a dans ma famille. C'est génétique, la cellulite ou pas ? Les femmes n'en ont pas. Ça n'empêche pas qu'on soit ronde, hein, mais il n'y a pas les petits trous, quoi.
Oui, il y a un côté héréditaire, mais aussi parce qu'il y a plusieurs sortes de cellulite. Il y a une cellulite aqueuse liée à, par exemple, de l'insuffisance veineuse. L'eau va stagner, donc
la
ça va
doit
gonfler.
Être bien liquide, quoi, non ? C'est ça, on la voit
c'est
pas.
Ça. Et ça, c'est héréditaire un peu aussi, l'insuffisance veineuse. Donc il y a vraiment beaucoup de facteurs, génétiques notamment.
Et on va en parler avec vous plus en détail tout à l'heure. Certaines femmes croient avoir de la cellulite, mais en fait, vous dites que parfois, c'est juste du relâchement.
Alors en fait, oui, la cellulite, cet aspect globuleux au niveau de la peau, il va s'accentuer dans certaines conditions. Par exemple, après la ménopause, avec le relâchement cutané, ça va encore plus créer des petits sacs, etc. J'adore, vous faites une tête.
Ah, mais je dis ça, vous me regardez en parlant de ménopause,
ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave.
Non, c'est pas une maladie.
C'est pas grave, puis, mais c'est moche.
Il y a la rétention d'eau, effectivement, la peau est parfois un peu plus fine, etc. Donc oui, il y a plusieurs facteurs qui font que ça va plus se voir. Mmh. Mais en réalité, toutes les femmes ont une couche graisseuse sous-cutanée, plus que les hommes, qui est souvent plus intraviscérale d'ailleurs chez les hommes. Et d'ailleurs, ont un peu plus de gras que chez les hommes, hein, c'est 25% du poids chez la femme.
Et bien sûr, ici on donne des conseils pour celles que ça gêne, mais si vous êtes très bien avec votre cellulite,
regardez-la,
évidemment. On est assis dessus, parfois c'est très confortable. Est-ce que d'ailleurs il faut être forcément en surpoids pour avoir de la cellulite ?
Pas du tout. C'est pas du tout en lien avec le surpoids. Enfin, il y en a peut-être plus chez les patients obèses, etc. Mais on peut très bien avoir de la cellulite en étant toute mince. Puisque c'est juste la perception à l'œil d'une couche graisseuse qui est très utile. Puisqu'au départ, la femme stocke plus sa graisse au niveau sous-cutané parce qu'elle en a besoin au moment de la grossesse, au moment de l'allaitement. C'était à l'époque où, aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans les pays dans lesquels on vit, quand on a faim, on mange. Mais au cas où, il y avait ce petit stockage. C'était un matelas. Question sur s'asseoir dessus.
Est-ce qu'il y a des zones, docteur, sur le corps où la cellulite adore s'incruster ? Vraiment, c'est son truc.
Ces zones, c'est la répartition graisseuse préférentielle chez la femme. Ça s'appelle la répartition gynoïde. C'est les hanches, les fesses, le haut des cuisses.
Et le ventre, un peu.
Et effectivement, la bouée.
Et vraiment, quand on est gâté, on peut en avoir un peu sur les bras, hein, quand même.
Ça arrive, même les mollets. les bras, effectivement. Mais là, c'est souvent, il faut pincer la peau pour l'apercevoir. Et la répartition gynoïde, parfois, sans même pincer la peau, on voit que ça n'est pas lisse.
Bon, docteur Jourdan, on va passer aux solutions. Avant de parler des traitements esthétiques, on va y venir. Il y en a grosso modo 3 techniques. Est-ce que ça marche, les crèmes qu'on voit partout dans le commerce, hein, anti-cellulite, soi-disant ? Est-ce qu'il y en a une ou deux qui marchent ? Si vous les avez, vous nous donnez tout de suite la marque, ça sera plus vite.
En fait, pas forcément une marque, mais il y a des principes actifs où on sait qu'ils vont avoir une action sur les cellules graisseuses. Comme on parle d'une couche graisseuse sous-cutanée, c'est une bonne idée de se dire je mets une crème et du coup, ça va aller dans la peau.
Ouais, donc, genre à base de caféine.
Mais voilà, faut pas rêver. Hein,
caféine,
le lierre, c'est les deux molécules, ça ne va pas forcément aller jusqu'à l'hypoderme, mais quand bien même ça touche les cellules graisseuses, c'est un effet purge. Ça aide les cellules graisseuses à se vider, mais ça ne les enlève pas.
Alors vous disiez que la cellulite n'a rien à voir avec si on est mince ou pas, mais si on perd du poids, ça peut aider à faire partir un peu de cellulite ou pas ?
De toute façon, tout ce qui va aider à perdre du poids, la modification du régime alimentaire, moins de sucre, moins de graisse, etc., le muscle, raffermir la peau également, tout ça va aider.
D'accord. Alors, il y a 3 techniques, je l'ai dit, médicales, on va dire, qui peuvent combattre la cellulite. La première, c'est ce qu'on appelle le Selfina. C'est quoi ? Est-ce que c'est valable et utilisable, entre guillemets, sur toutes les zones du corps ?
Le Selfina, c'est un peu le traitement du symptôme. Évidemment, on ne va pas enlever la couche graisseuse. Ça, ce serait de la liposuction. Là, on veut enlever l'aspect gondolé de cette graisse sous-cutanée.
Et la peau d'orange.
Exactement. Et le Selfina, c'est pseudo-chirurgical. Hein. Ça se passe dans une salle propre. On a une ventouse qui va aspirer les endroits particuliers. Particulièrement gondolée. Et de là, une aiguille va pénétrer sous la peau, donc il y a quand même une effraction cutanée. Elle va dilacérer, en fait, elle va couper le creux, ce qui tire le capiton dans le fond de la peau.
Et qui donc fait ça, le trou.
Exactement.
Ça vaut cher, ça ?
Ça coûte un bras, ou une fesse, je ne sais pas.
Je préfère que ça soit une fesse.
Allez, honnête.
C'est ça. Non, c'est moins qu'une liposition, mais c'est autour de 3 000-3 500 euros pour enlever tous les trous.
Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça demeure dans le temps ?
Voilà. Alors, voilà l'intérêt du Selfina. Même si on peut traiter quelques 3, 4 ou une dizaine de trous quand les femmes serrent les fesses et elles n'aiment pas les quelques trous principaux, c'est que c'est très très durable, c'est même permanent.
Ah, génial.
Donc ça peut être intéressant sur
ça
la
fait
semaine.
Mal un peu, hein. Ça fait mal.
On peut s'asseoir après, il peut y avoir quelques bleus, mais c'est pas si douloureux que ça.
D'accord. On peut utiliser aussi la radiofréquence contre la cellulite, je crois. Expliquez-nous comment ça marche.
La radiofréquence, c'est une grande famille de machines qui vont chauffer la peau très fort. En fait, c'est un courant électrique qui va être converti en chaleur dans la peau et de manière superficielle. ciel. Donc il y a quand même des radiofréquences de très bonne qualité avec des innovations qui font qu'elles arrivent à pénétrer un peu plus profondément jusqu'au gras. Mais elle a surtout un intérêt de retendre la peau. Mmh. Et ça, sur le plan esthétique, ça peut être une combine pour même... moins voir l'aspect gondolé.
Bien sûr, même question. Déjà, est-ce que ça dure dans le temps et combien ça coûte?
Elle veut tout savoir, Juliette.
Ah ben moi, c'est un vrai sujet. Hein.
Bah, radiofréquence, et vraiment, comme je vous disais, c'est une grande famille. Il y a vraiment toutes les... Il y a des très fortes, il y en a des plus soft, mais globalement...
Mais là, c'est un demi-bras.
Il faut plusieurs...
Ça coûte moins cher.
En tout cas, c'est réparti dans le temps, donc ça lisse les dépenses.
C'est 250
les
dépenses. Entre 300, 500 ouais. la séance.
250 à 350 selon les zones qu'on fait. Et il faut en faire 4 à 6... D'accord. Dans le temps.
Alors la dernière technique qui est la plus récente, je crois, elle utilise la micro-onde et qui traite donc là plus profondément. Ça s'appelle Onda, je crois. Expliquez-nous comment ça agit et quelle est l'efficacité, puis le coût tant qu'à faire, parce que Julia va vous le demander.
Ouais, parce que là, il me reste plus de bras là.
Elle a plus rien là.
Mais la micro-onde, bah en fait, on va se balader sur le champ des énergies qu'on utilise en médecine. Donc après la radiofréquence, on va sur une micro-onde effectivement qui a l'intérêt d'être moins absorbée cette énergie par la peau et plus par la graisse. Ça permet d'aller plus profondément, chauffer très fort. Et là, on va pouvoir atteindre vraiment l'hypoderme, ces cellules graisseuses. Et en les chauffant très fort, en fait, on ne fait pas seulement que les vider, mais on en détruit une partie. Donc ça, c'est très intéressant. Et en plus, cette chaleur qu'on aura apposée très profondément va diffuser à la surface de la peau. Et donc, par diffusion, ça va retendre la peau.
Je crois que c'est la technique double... que vous préférez. Hein. Ça marche très bien.
Oui, il y a
des
bons résultats. Après, ça dépend des patientes. Vous savez, des patientes qui... C'est surtout, qu'est-ce qu'elles ont vraiment? Parce que j'ai de la cellulite, puis en fait, il y a beaucoup de relâchement. On va plutôt aller sur la radiofréquence. C'est vraiment le profil... qu'on doit regarder. Quoi.
Ça coûte combien?
Ça coûte entre 300 et 500 euros, pareil, selon toute la surface qu'on traite. En revanche, il y a moins de séances. Ça peut être 4 séances, mais elles sont réparties sur le temps et se passer de 3 semaines.
Et c'est durable?
Et c'est durable. Alors, il peut y avoir
des rechutes.
Non, pas des rechutes, parce que tu peux diminuer la quantité de cellules graisseuses, mais c'est évident qu'un entretien est majeur, que ce soit sur le plan musculaire, tonicité de la peau. Ça n'a aucun sens d'aller faire des machines, se dire que l'argent va tout payer. Il y a un moment où il faut prendre soin de soi et le régime alimentaire, effectivement.
Très bien. Docteur Jourdan, pardon, ne bougez pas, on n'en a pas encore terminé avec vous et nos auditeurs. Enfin, là, surtout, je dis la vérité, nos auditrices, non plus. D'ailleurs, elles ont quelques questions à vous poser, on va les prendre, n'hésitez pas. S'il y a une petite dernière qui vous passe par la tête, vous qui nous écoutez, on prend vos questions sur Twitter, sur le hashtag Europe 1 ou encore sur notre répondeur au 3921. A tout de suite.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours en studio dans cette dernière demi-heure de notre émission consacrée à notre santé, notre bien-être et plus précisément à la cellulite. Ce midi, on en parle avec vous, docteur Marie Jourdan. Vous êtes dermatologue et on l'a dit, ça y est, on passe aux questions de nos auditeurs, nos auditrices hein, plutôt, je ne vais pas vous mentir. À commencer par celle-ci qu'on a reçue sur la page Facebook d'Europe 1, c'est Sonia, près de Montpellier, qui demande si, quand on a pas mal de cellulite sur les jambes surtout, ce n'est pas le symptôme d'un problème de circulation sanguine ou de lymphe, ou rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui répondre?
Ah, si, il y a une bonne partie des cellulites qui sont liées à de la rétention d'eau. En tout cas, elles peuvent être mixtes aussi. Ça peut être et le régime alimentaire pas adapté et la rétention d'eau. Donc, tout ce qui va lutter contre la rétention d'eau, les chaussettes, les pas de contention, etc., les massages, les drainages lymphatiques vont diminuer l'aspect cellulitique. Mais c'est totalement suspensif. Vous arrêtez de faire ça, boum, ça revient.
Ah oui. Il faudrait avoir quelqu'un qui nous fasse des palpés roulés tous les soirs à la maison.
Exactement.
Quoi.
Vous voulez
pas
venir,
mais mon mari, je crois.
Venez, je vais vous former. Bon, d'accord, merci. Docteur Jourdan, il y a aussi une question d'Olivia qui a 34 ans. Elle nous a laissé un message sur le 3921 sur notre répondeur. Elle dit avoir lu sur Internet qu'il faut se doucher à l'eau très froide sur les zones avec de la cellulite pour la faire disparaître. Est-ce que c'est vrai?
Oui, mais il faut rester toute la journée sous la douche froide.
C'est suspensif. Bah, là, il y a un double avantage. On va avoir un effet sur le raffermissement de la peau et sur le drainage du fait du massage. Si le jet est puissant, c'est encore mieux. Donc on a ce fameux palpé, presque palpé roulé avec le jet d'eau
froid,
l'eau froide. Ouais. Et effectivement, c'est pareil. Ça peut diminuer la rétention d'eau, donc l'aspect cellulitique, mais c'est transitoire.
Alors vous nous avez parlé du drainage lymphatique, mais j'en profite, vous parlez de palpé roulé, ça sert à quelque chose?
Effectivement, on va avoir le palpé roulé, il va drainer l'eau vers le haut, donc il va aider à l'élimination et ça peut casser un petit peu les petites fibres entre les grappes de cellules, etc. Mais quand je vous dis c'est transitoire, c'est parce qu'on est des bipèdes, on se tient debout. Je veux dire, si vous allongez toute la journée, il n'y a pas de problème.
Mais vous risquez d'avoir d'autres problèmes après.
C'est vrai que j'ai pas de cellulite allongée. Pourquoi je me lève?
Autre question d'Emilie sur Twitter qui demande si lorsqu'on a de la cellulite, il faut boire davantage d'eau que les autres pour l'éliminer.
Alors ça, c'est un peu un mythe, hein, cette histoire de « je bois de l'eau pour me détoxifier, éliminer la graisse parce que j'ai bu de l'eau
». On aimerait bien que ça marche comme ça. Mais...
j'avais vu cette étude qui montrait quand on boit un demi-litre d'eau avant de manger, bah, en fait, ça diminue la cellulite, mais parce que ça
on coupe a plus
l'appétit,
faim,
en fait. Donc on mange beaucoup moins et forcément, il y a moins d'amas graisseux, etc.
D'accord. Après, il y a des techniques, moi je sais tout. De toute façon, la cryothérapie, là, on va dans un caisson pendant 3-4
très
minutes.
Froid, très froid.
À moins 180 degrés, ça peut marcher, ça ?
Ça peut être très motivant, mais ça fait pas grand chose, c'est
vous
surtout pour la
récupération
votre musculaire.
Pour rien,
non, moi ça me fait du bien, mais ça sert à rien sur ma cellulite. C'est
Après, il peut y avoir un effet de raffermissement cutané, mais pas sur le très long terme.
Allez, une petite dernière pour la route, c'est Mina B, toujours sur Twitter, qui nous demande si finalement la meilleure des solutions pour se débarrasser de la cellulite, c'est pas quand même la bonne vieille liposuction. On l'aspire ce gras et on n'en parle plus, au moins, dit-elle.
Alors, pas du tout. Ouais, liposuction, elle diminue le volume de graisse, mais elle ne change rien à la manière dont la graisse s'organise. En plus, la liposuction, alors ça c'est vraiment pour les patientes qui veulent diminuer du volume. Hein, parce que en fait, on peut même avoir des petites traces de canules après la liposuction. Ça peut même être un petit peu plus gondolé, marquer le relâchement cutané. Mais en rien du tout, ça va changer l'organisation entravée, perpendiculaire à la peau, avec cet effet gondole de la peau.
En plus, il paraît qu'au-delà d'un certain âge, je parle du mien, il faut pas tellement faire de la liposuction parce que la peau est relâchée, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça. Ça va marquer le relâchement cutané. C'est pas forcément une bonne idée. Je sais pas si c'est en plus beaucoup la demande actuellement, mais souvent les jeunes filles aujourd'hui elles veulent enlever de la graisse des cuisses pour en mettre un peu plus au niveau des fesses. Il y a encore plus de cellulite au niveau des fesses. On ne comprend pas bien.
C'est vrai que c'est la mode d'avoir des formes. Donc
on
les garde.
On est content, on aime bien les formes.
Et puis les hommes, ils voient pas la cellulite. Ils ont un filtre, ils voient rien.
Ouais, c'est ce qu'ils nous disent, Julien, je crois. Merci beaucoup, docteur Jourdan, d'avoir été à nos côtés ce midi. Merci pour tous vos conseils très pratiques. La cellulite, on peut s'en débarrasser. On l'a compris, si on le souhaite, bien sûr. Sinon, on reste assise dessus. Il existe aujourd'hui en tout cas des techniques efficaces. Merci encore.
À présent, Mélanie, il est temps de passer à notre petit bonus, la chronique vite fait, très bien fait. Avec vous aujourd'hui, Cécile Coumeau. Vous êtes, je le rappelle, je suis désolée, à quinca de l'équipe.
on arrive. Une étiquette, hein, ça y est, c'est réglé.
Mais on arrive avec Mélanie, on va vous rejoindre bientôt. Et à ce titre, vous vous êtes mise en tant que quinca à la marche. Il paraît que c'est hyper tendance, notamment dans cette tranche d'âge. Et je crois que vous n'avez pas fait les choses à moitié, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, en fait, il y a quelques mois de cela, vous savez, au tout début du premier confinement, quand on ne voyait pas franchement le bout du tunnel, j'ai décidé de m'inscrire à une marche un peu hors norme, le Trail Walker de l'ONG Oxfam, et c'était ce week-end.
C'est quoi ce truc ?
Alors, c'est une marche de 100 km à réaliser en moins de 30 heures et par équipe de 4, une boucle autour d'Avallon dans le Morvan.
Mais je ne comprends pas, vous êtes en relais ?
Alors non, on est solidaires.
Elle a tout fait, les 100 km.
Oui, dans tous les sens du terme, on est solidaires. Les 4 membres de l'équipe marchent ensemble et toutes les équipes s'engagent, avant de partir bien sûr, à récolter 1500 euros pour financer les actions de lutte contre la pauvreté d'Oxfam.
Alors déjà, vous êtes revenue, vous êtes là sur le plateau, Cécile, c'est bon signe. Et en plus, vous avez la banane. Moi, j'y crois pas trop quand même. Vous les avez vraiment fait, les 100 km ?
Non, franchement, c'était...
j'ai vu des photos, je sais que
c'était magique, intense physiquement, bien sûr, mais aussi émotionnellement. Alors, l'ambition du départ, qui était de dépasser cette crise sanitaire, franchement, est largement atteinte. Faire du sport en pleine nature et partager ça avec des amis, ça a été en fait une sorte de cure de jouvence pour moi à la quinca, mais aussi pour mes partenaires qui étaient un petit peu plus jeunes que moi.
Non mais 100 km sans dormir, non mais c'est pas possible, comment vous avez tenu, ça doit être dur quand même.
Oui, bien sûr c'est dur, mais franchement, on n'a jamais franchi la ligne rouge et on n'a pas mis notre corps en danger. Écoutez-nous, vous allez voir.
On est où là ?
70.
70, ouais.
Ça va Cécile ? Les ampoules ?
Ouais, les ampoules, ça commence... Non, ça commence pas, ça fait un moment que ça fait un petit peu mal. Bon, mais c'est bon, ça va ? 70. Il reste quoi, là ? 30 bornes, mais c'est que dalle.
On vous connaît bien avec votre pêche, malgré les 70 km.
Alors, pourquoi on tient le choc, finalement ? Aujourd'hui, j'ai la réponse. Premièrement, on s'est quand même entraîné pendant 6 mois sur des longues marches, presque tous les week-ends, quand même. Mm-hmm. Deuxièmement, on n'a pas lésiné sur l'équipement. On a, par exemple, testé nos chaussures des mois auparavant. Et puis, le facteur peut-être le plus important, l'équipe. On a été hyper soudés et on avait des supporters au top.
Des supporters, c'est-à-dire des inconnus qui vous encourageaient comme ça sur le bord de la route ?
Oui, il y en avait, mais c'est pas que ça. Chaque équipe devait obligatoirement embarquer des proches dans cette aventure. Nous, on en avait 9 qui sont venus nous retrouver à tous les points de contrôle pour nous masser et nous encourager.
Sympa.
Et croyez-moi, en pleine nuit, c'est crucial.
Ah putain, 80 bornes. Tu veux faire... dur là, je trouve, moi, mais... envie de dormir. Un peu. Pas vous ?
Dormir, je sais pas, mais...
Mais arrêtez, ça... ça oui.
C'est vrai, t'as envie d'arrêter?
Non.
J'en ai plein les pattes, moi, quand même, je crois.
Alors, on sent un petit découragement au 80e. Hein,
Mais en gros, après avoir avalé de la banane bourrée d'oligo-éléments pour prévenir les crampes et la fatigue, on est reparti.
Bon, alors j'en déduis que vous êtes allée au bout, Cécile. Déjà, vous êtes avec nous. Et les autres équipes, ça a été?
Ouais, globalement, la moitié des 140 équipes sont arrivées au complet. Florent Planas, le directeur de l'engagement citoyen chez Oxfam France, nous explique les principales causes d'abandon.
C'est la dermatologie, les frottements, que ce soit au niveau des pieds, bien sûr, ou au niveau du reste du corps. Donc vraiment, la première cause d'abandon, en général, c'est des problèmes au niveau des pieds, des ampoules ou autres douleurs au niveau des pieds.
Alors, il ne le dit pas clairement, hein, mais moi je vais vous le dire. Ça frotte aussi beaucoup au niveau des fesses et des tétons, notamment chez les hommes. Il ne faut pas lésiner sur les crèmes anti-frottement.
Et vous avez eu des frottements, Cécile?
Bon, alors je dirais juste pudiquement oui. J'en profite pour dire merci au podologue qui a soigné mes ampoules et à toute l'équipe médicale présente sur le parcours. Ils prennent en charge globalement les crampes, les tendinites et autres bobos musculaires, mais aussi les malaises ou les maux de ventre qui sont liés à la déshydratation.
Bon, et finalement, Cécile, puisqu'on est là dans le conseil aujourd'hui avec vous, c'est toujours les conseils pour ces quinquas et plus. L'âge, c'est franchement pas un obstacle à ce type d'épreuve. Vous avez l'air plus jeune que jamais, d'ailleurs, je trouve.
C'est vrai, hein, c'est gentil. Bon, alors, franchement, les premiers à franchir la ligne d'arrivée en 17 heures étaient plutôt jeunes, c'est vrai. Mais tout le monde avait sa chance, comme nous le confirme Florent Planas.
On n'est pas dans une compétition, mais bien dans une marche sportive et solidaire. Et nous avons des participants qui vont, on va dire, d'une quinzaine d'années à plus de 70 ans. Cette année, la doyenne avait 76 ans à Valon.
Alors maintenant, pour vous faire du bien, inutile de faire 100 km quand même, 30 minutes de marche par jour, ça suffit pour doper de manière tout à fait naturelle votre cœur, vos articulations, vos poumons, vos muscles et surtout votre morale.
Ouais, c'est incroyable. Vous avez une banane, Cécile. Je suis jalouse, franchement. Mais peut-être l'année prochaine, on verra. Docteur Jourdan, 100 km comme ça contre la cellulite, c'est bien, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez.
En tout cas, elle m'a donné vachement envie de le faire.
Ah non, c'est génial.
Marcher, ça fait du bien contre la cellulite, docteur.
Ah ouais, de toute façon, l'endurance aussi, puisque au niveau cardio, on va augmenter le métabolisme et ça va diminuer la graisse.
Mais c'est génial. Vous êtes mon idole, Cécile.
Ah, c'est
gentil. Et puis, vous avez un teint d'enfer. Il a dû faire beau en plus.
Il faisait super beau. Enfin, on a eu 1h30 de pluie au départ, mais on savait qu'après, beau temps, donc c'est génial.
On peut en faire ailleurs que dans le Morvan, mais j'aime bien le Morvan.
Oui, 100 km, vous pouvez partir où vous voulez en réalité.
Il y en a un autre 100 km, Julia, si vous voulez. C'est à Dieppe. Un peu moins difficile, un peu moins de dénivelé, parce que là, il y avait quand même pas mal de dénivelé.
On a le droit de faire que la moitié. Moi, je fais 50 et vous faites 50.
Non,
on est un duo, Julia.
Sérieusement. À la vie, à la mort.
Mais allez, c'est noté. Hein.
Merci beaucoup, Cécile Coumeau. Et bravo encore pour cet exploit qui est donc à la portée de tous, avec un bon entraînement, bien sûr, et de la volonté. On l'a compris. Alors, le bienfait, enfin, le dépassement de soi, tout ça, ça n'a pas d'âge. Grâce à vous, Cécile, maintenant, on le sait. Et bien voilà, bienfait pour vous, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve, bien sûr, demain dès 11h. Et Mélanie, demain, quelle sera notre question? Du jour.
Alors demain, Julia, on va se poser cette question. Un mois sans porno, est-ce possible? En fait, c'est un défi. Oui, c'est bizarre la transition là. En fait, c'est un défi qui est lancé aux jeunes tout le mois de septembre. Tout le monde est explosé de rire dans ce studio. Mais il y a une situation qui est inquiétante. À 12 ans, un enfant sur trois a déjà vu des images pornographiques. On verra comment les protéger, ou au moins les éduquer à ce qu'est la sexualité dans la vraie vie. Pas de sujet tabou, vous l'avez compris, dans Bienfait pour vous.
Et puis Mélanie, il y aura encore de nouveaux sujets tendance de la santé, du bien-être. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur le répondeur de l'émission 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.